Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-d'Orouergue.
Bonjour à tous, c'est Lis des livres sur CFM, votre rendez-vous littéraire du mardi à 12h35 et en rediffusion le samedi à 18h. Présenté par Fred et Monique. Bonjour Monique.
Bonjour Fred et Joël. Bonjour Joël.
Bonjour Fred et Monique.
Bonjour Joël.
En partenariat avec la librairie La Folle Avoine. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de En cheveux de Emmanuel Pagano, qui est publié par les éditions Invenit en collaboration avec le Musée des Confluences, et un livre jeunesse qui s'appelle Les Vites à l'abri de Jean-Claude Grimberg, illustré par Ronan Badel. Donc, En cheveux de Emmanuel Pagano est un joli petit livre où on voit une chevelure rousse et une peau tachetée de taches de rousseur. Et ce livre ne parle pas de cheveux, mais d'un châle. Ce châle est une pièce de musée, en fait, qui est exposée au Musée des Confluences à Lyon et qui est fabriquée dans une matière extrêmement rare qui est la soie de mer. La soie de mer est issue d'un coquillage, la grande nacre de Méditerranée, que l'on trouve que dans le sud de l'Italie. Et cette grande nacre fabrique du byssus. Appelons les choses par leur nom. Et ce byssus est ensuite récupéré, écardé. Et il faut environ 1000 nacres pour fabriquer 250 grammes de cette soie de mer.
Oui, ce byssus, c'est le fil soyeux, justement, qui sert au coquillage à s'attacher au rocher.
Voilà. Et alors, on voit le châle sur la première page de couverture, qui a c'est un marron un peu terre de sienne, avec des reflets mordorés. Et il paraît finalement assez banal. Le livre est original parce qu'en fait, ils ont prévu qu'on puisse aller directement sur le site du Musée des Confluences avec un code qu'on peut photographier. C'est la modernité associée à un objet un peu ancien. Maintenant, on va parler un peu d'Emmanuel Pagano. C'est une femme qui est née en 1969, qui est agrégée d'art plastique, donc sensible à l'art et aux objets. Et elle a enseigné jusqu'en 2012, avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Elle est originaire de l'Aveyron, et elle vit maintenant en Ardèche. Alors, elle a été intéressée par ce châle. Elle était en résidence à la Villa Médicis parce qu'elle avait eu un prix pour ses précédents livres. Et elle a eu vent de cette histoire de châle. Elle savait qu'elle était en Italie. Ça lui a donné la possibilité de rencontrer les personnes qui ont offert le châle au musée. À partir de ces entretiens qu'elle a eu...
Mais le Musée des Confluences, c'est pas en Italie.
Ah non, le Musée des Confluences est à Lyon.
Oui.
Et donc, le Musée des Confluences, c'est un musée qui reçoit des objets divers du XXe siècle.
Oui, c'est un objet, c'est un musée un petit peu particulier qui vient d'ouvrir là en décembre 2014 à Lyon. Donc, Musée des Confluences pour deux raisons. Parce que justement, il est situé au confluent du Rhône et de la Saône à Lyon. C'est un endroit en plus qui est très très beau sur le plan architectural. Et ce musée, donc... a un héritage, plus de 2 millions de pièces, d'objets rassemblés tout au long de l'histoire, non seulement de l'histoire, mais tout au long de la géographie, puisqu'il y a des choses du monde entier et qui vont du 16e jusqu'au 21e siècle. Mais ce musée des Confluences, il a encore une particularité, et justement, le livre d'Emmanuel Pagano, je sais pas, on peut pas appeler ça un roman, c'est un récit d'objets, en fait.
Voilà, récit d'objets.
Voilà. Et donc, le Musée des Confluences a lancé cette collection-là, parce que raconter l'homme, c'est l'objectif de ces récits d'objets, justement. Donc, le principe est très simple. On demande à des auteurs de choisir un objet dans le musée et d'écrire, de construire une fiction à partir de cet objet-là. Donc,
il y a quatre auteurs.
Voilà. En plus d'Emmanuel Pagano, oui, Jean-Bernard Puy, Philippe Forest et Valérie Rousseau.
Voilà.
Qui eux aussi ont écrit un récit d'objets. et c'est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment la particularité, c'est cette collection récit d'objets du musée des Confluences de Lyon.
Donc je disais tout à l'heure que comme elle était en Italie à la Villa Médicis, Emmanuel Pagano a pu rencontrer les propriétaires de cet objet.
Oui, mais cet objet, il est au musée des Confluences.
Oui, oui, ah, c'est voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et cet objet appartenait à une grande famille italienne et l'a déposé dans ce musée où il est exposé. Et avec les bribes du récit qu'elle a rassemblé, elle a construit cette histoire. Et elle a utilisé, alors la narratrice est une nièce qui parle de sa tante. Et cette tante est une femme un peu originale, très près de la nature, sauvage, on va dire. Celle-ci avait un frère, le frère de la tante donc, qui est déifié dans la famille, puisque c'est un garçon déjà. On peut dire carrément fasciste, puisqu'il était dans l'armée. Et il faisait régner sur la famille son autorité et ses principes. Donc, entre haine et fascination, la petite sœur, qui s'appelle Nella, elle est détentrice du châle, celle-là, et elle échappe à son emprise grâce à de longues promenades dans les bois avec ses chiens. Et on a de magnifiques descriptions d'une nature qui est vraiment sublimée par Emmanuel Pagano, avec des images. Moi, il y en a une que j'ai trouvée très belle, par exemple, c'est un hiver dissonant qui tenait lieu de traîne à sa colère. Elle a le don du choix des mots. Et des images, c'est vraiment très, très, très beau. Elle imagine les occupations des deux sœurs, soumises à la loi machiste de l'Italie du début du XXe siècle jusqu'aux années 60, hein, où il faut quand même savoir qu'une femme ne pouvait rien faire sans l'autorisation du père ou de l'époux. Donc je pense qu'elle en profite aussi pour parler de cette vie des femmes en Italie à l'époque du fascisme. Et Nella et Brice, donc, et Bis, elle s'appelle Bis, vivent un peu enfermées dans cette grande maison avec ce châle comme objet rare. Et elles sont des collectionneuses. Elles aiment bien fouiner dans les tiroirs, aller se promener en forêt et ramasser des petits objets, des os, des plumes, des squelettes. Et elles organisent dans des boîtes des espèces d'installations dans lesquelles on peut trouver la symbolique des contes. Et Emmanuel Pagano reconstruit tout un univers, etc. Et en même temps, elle en profite pour parler du châle, des taches, des trous, elle reprend le châle est un personnage en lui-même du livre. Alors, moi, je disais que si ça s'appelait En cheveux, c'était parce que Nella refusait les codes vestimentaires du bien habillé de rigueur de cette grande famille bourgeoise italienne, mais aussi parce que c'était une manière de pas séduire et d'éloigner d'elle des éventuels prétendants ou des éventuels maris que son frère lui aurait trouvé. Monique avait une autre inspiration.
Oui, inspiration, je sais pas, mais En cheveux, effectivement, pour moi, la première chose à quoi j'ai pensé, c'est ben, justement l'idée de la soie, le fil de soie qui m'a fait penser aux cheveux, voilà, quelque chose qui flotte comme ça, puisque c'est une nacre, donc quelque ouais. chose qui est marin. Voilà.
Bon, donc le livre d'Emmanuel Pagano, ce sont des peintures, des émotions, quelques faits et gestes anodins, mais ça dit toujours beaucoup sur les personnages et bien plus qu'une analyse psychologique. Voilà, on vous le conseille grandement. Le monde qu'elle ressent construit des récits magnifiques. Elle a écrit beaucoup de nouvelles. Pour moi, c'est une des grandes novellistes françaises actuelles. Peut-être pas assez connue à mon goût, mais elle a écrit Le renard à main nue et un livre qui s'appelle Nous en nous. Et franchement, ça vaut le détour. Voilà. Donc on va écouter pour faire la transition avec le livre dont on va parler après. On va écouter une chanson qui s'appelle Le juif, l'arabe et le manouche, qui est tirée de la BO de Swing, d'un film de Tony Gatliff.
Oh l'arabe! Et l'arabe, on a soif.
Le juif, le manouche. You are welcome, man. Yama.
Oh, ya 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 ya. Oh, ya 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 ya
Donc, nous allons parler des Vite à l'abri de Jean-Claude Grunberg et Ronan Badel aux éditions Actes Sud Junior. Et on peut parler d'une histoire graphique. En fait, c'est un roman qui peut s'adresser aux enfants à partir de CM2. Et c'est une histoire associée à des images. On disait avec Monique et Joël tout à l'heure qu'on avait l'impression de voir un peu du Sempé. Les personnages sont un peu ronds de visage comme Sempé. C'est des gens de la rue. Et c'est très bien pour ça. Parce que les Vite à l'abri, le livre porte bien son titre, sont un peuple de sans-abri, de gens qui sont de nulle part et qui vont nulle part. Alors souvent, ils ont le nez trop gros, le nez trop petit, trop d'enfants, pas assez d'enfants, ils font trop de bruit, pas assez de bruit, ils parlent pas la langue, ils parlent la langue, enfin bon, voilà. Et ces gens, l'histoire commence, ils habitent une cabane et la mère décide de partir parce qu'on les aime pas là où ils sont. Et le père pose la question de savoir s'ils vont être aimés ailleurs.
Voilà, oui, ça c'est un petit peu le coup de cœur, en tout cas notre coup de cœur de la semaine en littérature de jeunesse. C'est une très belle réflexion sur la famille, l'errance, l'exil. Et effectivement, les Vite à l'abri n'ont ni patrie, ni pays. Donc, à partant de là, on peut penser qu'ils peuvent être chez eux partout, sauf que personne ne les veut nulle part. Donc, sans papier, sans abri, leur seule richesse, en fait, c'est leur musique.
Voilà.
Et leur liberté. Bon, il va falloir... Donc, ce qui est très particulier et très intéressant en même temps dans ce petit roman-là, c'est que l'auteur ne cite jamais, en fait, ni les pays qui sont traversés au cours de cette errance, de ce voyage où on cherche toujours le pays dans lequel on sera le mieux. La maman décide d'emmener tout le monde. Et il ne donne jamais non plus la nationalité, ni... voilà, ça pourrait être tout aussi bien une famille de Roms, de Juifs, de Maghrébins, Africains, issus de n'importe quelle minorité, qui se retrouve sans lieu, sans papier, qui chaque fois espère que de l'autre côté de la frontière, qui est souvent infranchissable ou en tout cas difficilement franchissable,
il y a des passeurs.
Ça sera mieux, il y a des passeurs, il y a des allusions faites aux passeurs. Ben voilà, mais chaque fois, de l'autre côté aussi, on dort sur les trottoirs, même si les trottoirs sont plus propres. On dort encore sur les
trottoirs.
Oui, sur puis
dans chaque pays, les règles pour ces peuples d'exilés sont différentes, mais en fait, elles sont tout aussi stigmatisantes pour eux dans chaque pays. Alors, il y a même un pays où ils vont jusqu'à tatouer un V sur le front le front de la famille. Et bon, au fur et à mesure de leurs errances, ils finissent par aussi se perdre eux. Les enfants sont dispersés. Il y a un des fils qui choisit de repartir dans l'autre sens et qui retourne dans entre guillemets, son pays.
Il se retrouve dans son propre pays.
Celui où il a vécu son enfance. Donc, il a l'impression d'y être un peu plus chez lui, mais il finit par aussi en être expulsé parce que les règles ont changé, parce que le contexte économique est devenu difficile dans ce pays-là et que du coup, ceux qui prennent, c'est Vite à l'abri.
Il se retrouve autour d'un concert de musique puisque le petit garçon, enfin l'aîné de la famille, a beaucoup de réticence à partir, ne veut pas abandonner ses livres et veut absolument faire suivre son violon tout au long du chemin.
Voilà, et alors ce qui permet au Vite à l'abri de devenir quelqu'un qui compte dans la société, c'est leurs qualités artistiques, puisque le fils aîné devient un grand violoniste. Et on pense forcément au doigt de l'homme, le groupe qui est passé à Villefranche il y a pas très longtemps, avec ce jeune accordéoniste.
Ah oui, l'accordéoniste roumain.
L'accordéoniste roumain qui est fabuleux dans sa maîtrise de l'accordéon. Et là, le fils, c'est un peu ce qui lui arrive. Finalement, il fait une carrière, il rencontre des gens, etc. Et les parents réussissent à retrouver leur fils en le voyant en tête d'affiche. Et là aussi, il y a une scène cocasse avec la lecture.
Les dialogues sont très drôles. Et heureusement, parce que ça allège quand même un petit peu la lourde. Les dessins sont magnifiques aussi. Donc tout ça, quand même, ça rend
un Oui, parce que c'est un sujet très grave et très tellement grave, actuel. Oui. Ça fait mal, quoi, de lire ça. Et même nous, qui sommes pas des vite à l'abri, on est un peu stigmatisés dans nos comportements de rejet dans ce livre. Et c'est bien, parce que ça permet de se... Je dis pour des gamins, ça permet de se poser la question de savoir comment on est avec ces gens qui n'ont pas de maison, qui sont pas bien habillés, qui sont toujours rejetés.
Et oui. Et puis tristement d'actualité aussi, hélas. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, bon, tu disais tout à l'heure un moment dans un certain pays, on ne sait pas lequel, mais les vite à l'abri sont marqués d'un V sur le front. Bon, évidemment, en d'autres temps, ce fut l'étoile jaune. Et ce qui m'a frappé beaucoup, c'est ce que dit un policier, justement, au moment où on grave ce V sur le front, en disant, parce qu'il y en a trop et que ça peut plus durer. Et ça, je crois que malheureusement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup encore. Et quand on fait lire ça à des enfants, des grands-enfants, ça peut permettre d'ouvrir la discussion un petit peu sur tout ce qu'on entend en termes de clichés, de préjugés. Savoir qu'on est toujours rejeté de quelqu'un.
La conversation avec le policier, là, elle est terrible. Parce que il dit que le V va permettre de les repérer au premier coup d'œil et que ça va permettre aux jeunes qui rentrent dans la police, ça va leur faciliter la tâche.
Contrôle faciès.
Voilà. Exactement.
Et oui, ça va faciliter la tâche aux jeunes qui sont sous l'uniforme pour la première fois. Et c'est sûr, ça fait du boulot en plus de pouvoir détecter les... Voilà, alors, on peut pas s'empêcher de penser
c'est
à certaines
ironique,
choses.
C'est très ironique, c'est grinçant quand même, c'est très ironique.
Oui, voilà. Vous avez pas parlé des illustrations, je crois qu'elles sont importantes dans le livre. Allez regarder comme ça, en feuilletant, elles dégagent une grande tendresse.
Oui, l'esprit de famille, les enfants, etc. Parce que la famille, c'est important dans ce... Voilà, c'est... donc, on vous a parlé de... Les Vite à l'abri de Jean-Claude Grimbert, Ronan Badel aux éditions Actes Sud Junior. Et pour faire la place à Joël et sa petite chronique, on va écouter Le Chalon qui passe de Lys Gaudy.
La nuit s'est faite, la berge s'estompe et se fait. Un bal musette, une auberge ouvre leurs yeux pères. Le chaland glisse sans trêve sur l'eau de Satin. Où s'en va-t-il, vers quel rêve, vers quel incertain du destin? Ne pensons à rien, le courant fait de nous toujours des sur mon chaland, sautant d'un gué, l'amour peut-être s'est embarqué. Aimons-nous ce soir sans songer à ce que demain peut changer. On file de l'eau, point de
voilà, le chaland s'est noyé. Et oui, on continue la rubrique Marie de Régnier, 1875-1963, qui est née, je vous l'avais dit, Marie de Hérédia, la fille du poète. Et dans une présente chronique, je vous ai parlé surtout de la séductrice qui drainait autour d'elle une cour de poètes délurés, ambitieux. Il y avait Marcel Proust, Paul Valéry, Henri de Régnier, Jean de Tignan, Pierre-Louis, Léon Blum, bon, pour ne citer que les plus connus, excusez du peu. Nous avons laissé Marie de Hérédia, épouse de Henri de Régnier, amante de Pierre-Louis, qui est le père de son enfant, Pierre de Régnier. Marie ne se contente pas d'un rôle dans le boudoir, elle Elle baigne dans le poème depuis son enfance. Elle a envie d'écrire et elle écrit des poèmes. Elle va même être publiée, mais elle veut aller plus loin, vers le roman. Elle va s'inspirer de sa liaison complexe et bancale avec Jean de Tinan, qui interfère avec celle avec Pierre-Louis. Elle va s'exprimer dans un long texte d'autofiction qu'elle intitule « L'inconstante ». Au moment de le signer, ne voulant pas être confondue ni avec son père ni avec son mari, elle cherche un pseudonyme dans sa famille. Elle retient le nom de jeune fille de sa grand-mère, Girard Douville, qui deviendra Gérard Douville. Et ce nom l'accompagnera pour toute son œuvre. Le succès de ce premier roman lui permet de continuer. Elle va montrer tout son talent en inventant la jeunesse de son père à Cuba. Elle n'y est jamais allée, mais en s'inspirant des récits et des contes de son enfance, Le Séducteur, c'est le titre du roman, sera plus vrai que nature.
On va peut-être aujourd'hui rester sur la vie de Marie de Régnier. Et puis, on continuera la chronique la semaine prochaine. Hein, parce que Joël, il est intarissable sur Marie de Régnier. Et puis, c'est vrai que c'est passionnant. Donc, aujourd'hui, on vous a parlé de En cheveux de Emmanuel Pagano, d'Évite à l'abri de Jean-Claude Grimbert et Roland Badel. Et voilà, on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir Joël et merci. Au revoir Monique.
Au revoir.
Au revoir à tous.
Au revoir Mathias.
Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-d'Orouergue.